Alors donc, la question de l'immortalité, enfin, donc, la question de la vie après cette vie, ou comme on appelle communément, la vie après la mort. Évidemment, la notion de vie après la mort est un peu contradictoire si on définit la mort comme la fin de tout, n'est-ce pas, comme le néant. Alors, posons déjà le principe suivant, philosophique, si vous voulez, que tous les philosophes endossent, et que Abdu'l Bahá réitère, que ce qui existe ne peut jamais devenir inexistant, c'est-à-dire l'existence ne peut jamais devenir le néant. Et le néant ne peut jamais devenir l'existence. Donc, la mort, c'est le nom qu'on donne à certaines transformations d'un état d'existence à un autre état d'existence. Et même les physiciens les plus matérialistes acceptent ce principe. Comme vous savez, ça, c'est le principe de conservation de la masse-énergie, n'est-ce pas? Que rien n'est créé, aucune transformation peut ni détruire ni créer la matière et l'énergie. Okay? On peut juste les transformer d'un état à l'autre. Deuxièmement, Abdu'l-Bahá explique que il y a deux sortes de transformations. Des transformations rapides et des transformations lentes et cumulatives. Et il explique que la vie, l'expérience de vie, la façon que Dieu a construit la vie, qu'on a besoin des deux sortes de transitions, qu'il y a certaines choses qui ont besoin du temps pour se réaliser, et d'autres qui doivent venir par la nature même très soudainement, n'est-ce pas? Qui sont des transformations rapides. Alors donc, il dit, la mort, ce n'est pas en principe différent de toute autre transformation, sauf que c'est une transformation rapide, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la frontière entre la vie et la mort bon, c'est pas complètement clair, comme on le sait, n'est-ce pas? C'est parfois difficile de dire à quel moment une personne vraiment est morte. Mais en fait, disons, par rapport aux autres sortes de transformation, c'est rapide, c'est-à-dire que c'est une affaire de quelques secondes, une minute, je ne sais pas quoi. Okay. Et c'est aussi une transformation qui est irréversible, c'est-à-dire il y a des transformations qui sont réversibles. Et il y a des transformations qui sont irréversibles, et la mort est une transformation qui est irréversible, la mort physique. Alors donc la question c'est, est-ce qu'il y a un aspect de l'être humain qui survit à ce processus de transformation rapide qui est la mort de son corps? Donc la première question c'est l'existence de l'au-delà, c'est l'existence d'un monde immortel. À mon expérience, la plupart des gens passent leur vie sans résoudre de façon satisfaisante cette chose-là. C'est-à-dire, à ma connaissance, c'est juste, c'est pas une étude scientifique, mais la plupart des gens que je connais ou que j'ai connus sont aux prises avec ce problème. C'est-à-dire, certains sont des athées qui disent non, il n'y a sûrement rien après la mort. D'autres disent quelque chose, j'espère, je crois qu'il puisse y avoir, etc., etc. Mais des gens qui sont vraiment fermement convaincus, certains, enfin, sereins dans la notion qu'il y a une vie après la mort, c'est, à mon expérience, la minorité. Mais selon les enseignements de Baha'u'llah, selon la façon bahaïe de regarder les choses, savoir qu'il y a une vie après la mort, parce que Baha'u'llah dit qu'il y a une vie après la mort, et Abdu'l-Bahá dit que la notion que la vie finie termine avec la mort physique est une des plus grandes causes de la dégradation de l'être humain. C'est-à-dire, la conception d'aliénation, que le fait qu'il soit complètement annihilé, n'est-ce pas, en fait, au moment de sa mort, ça engendre en fait, ça a toutes sortes de conséquences négatives sur la vie dans cette vie. Je pense que c'est assez évident ce qu'il entend par cela. Par exemple, une des conséquences est évidente. S'il n'y a pas de vie après cette vie, alors tout ce qu'on peut expérimenter dans cette vie, on l'expérimente pour une seule fois, n'est-ce pas? Alors on veut dire, ben, pourquoi prendre les drogues, n'est-ce pas? Si ça me donne une sensation d'euphorie, pourquoi pas poursuivre mes passions ou n'importe quoi, parce que je ne les aurai pas une fois que je suis mort, alors il faut que j'en jouisse, etc. C'est-à-dire, ça mène à une attitude assez différente entre devant certaines questions de la vie, n'est-ce pas? Mais Bahá'u'lláh explique que le simple fait de savoir qu'il a une vie après la mort n'est pas suffisant pour gagner l'optique qui est vraiment propice à une vie morale et spirituelle. Mais c'est la première étape, évidemment. Il faut savoir qu'il a une vie après la mort. Et d'ailleurs, Abdu'l-Bahá enseigne que l'âme est une entité métaphysique, non physique, donc. Il dit que l'âme n'est pas composée d'éléments. Il explique en plus que tout ce qui est matériel est composé d'éléments. Comme nous le savons, la physique nous le dit. Alors il dit que des entités spirituelles telles l'âme se différencient des entités matérielles dans le sens précis que les entités spirituelles sont des substances uniques, pour répondre à un terme philosophique, c'est-à-dire il n'y a pas de partie, on ne peut pas parler de moitié d'une âme ou de couper une âme en deux parce que ça ne se coupe pas, c'est-à-dire c'est une substance unique, il n'y a pas de partie à l'âme. Et donc, puisque Abdu'l-Bahá explique que la mort est une décomposition, du point de vue physique, la vie c'est une sorte de composition, c'est quand les éléments sont réunis d'une certaine façon que la vie est créée, et la mort est la décomposition, c'est le couper ces liens qui font qu'une chose est en vie. Autrement dit, la vie s'établit par l'existence de certains liens et la mort physique, toujours, a lieu au moment que ces liens sont rompus, n'est-ce pas? Donc, imaginons, c'est un peu macabre peut-être, mais quand même, ça vaut la peine juste pour faire un petit point logique. Imagine quelle est la différence précise entre le corps une seconde après la mort et le corps une seconde avant la mort. C'est-à-dire que dans une seconde ou deux secondes, si vous voulez, tous les éléments sont présents. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Les éléments ne s'évaporent pas comme ça. Donc tous les éléments constituants du corps sont là une seconde après la mort comme ils étaient là une seconde avant. Rien n'est perdu. Et les proportions sont essentiellement les mêmes. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une seconde avant vie et une seconde après mort? Alors, c'est que la vie, ce n'est pas simplement la présence des éléments. Ce n'est pas simplement la substance. C'est la nature des liens entre les substances. Des relations entre ces substances. Donc la vie est caractérisée par, c'est un système dynamique, et ce système a non seulement des composantes, mais des liens entre les composantes. Et c'est ces liens qui font qu'il y a vie et mort. Ce n'est pas la présence des composantes. Comme Adebar dit, vous pourriez prendre tous les éléments dont votre corps est composé, et dont les proportions exactes, et les mettre ensemble dans un seau, et ça ne serait pas un être humain, n'est-ce pas? C'est tous les éléments, c'est la substance identique dans les proportions exactes, mais les liens ne sont pas là. Donc la mort, c'est la décomposition, Et la décomposition, c'est pas simplement la perte des composés, mais c'est surtout le bris des liens qui relient les composantes entre elles et qui font que ces composants, que ce système constitue une entité vivante. Alors, tout simplement, si la thèse d'Abdu'l-Bahá est correcte, c'est-à-dire que l'âme n'est pas composée, alors elle ne peut pas décomposer. Donc, l'âme est immortelle. Donc, fait scientifique, si vous voulez, évidemment, on peut débattre du point de vue scientifique, est-ce qu'il existe de telles substances, mais s'il y a de telles substances non composées, ils sont par le fait même immortels, n'est-ce pas? Parce que s'ils ne peuvent pas être coupés en deux ou décomposés, alors ils ne peuvent pas mourir, n'est-ce pas? Donc, l'âme est immortelle en son essence. Elle a un commencement, comme dit Abdu'l-Bahá, mais elle n'a pas de fin. On a aussi demandé à Abdu'l-Bahá, juste entre parenthèses, étant donné le principe que l'existence ne peut pas venir du néant, comme on a dit tout à l'heure, alors, où était, ou dans quel état était l'âme avant sa création? Parce que l'âme ne peut pas venir de rien. Alors, Abdu'l-Bahá répond, c'est dans un livre, enfin, qui s'appelle Star of the West, que toutes les âmes existent dans un état de potentiel, mais ils ne sont pas individualisés. Et le moment que notre âme est créée en tant qu'âme, avec toute la potentialité, c'est comme si la personnalité, le contenu est donné à cette âme. C'est-à-dire, l'âme comme entité métaphysique existe depuis toujours, parce qu'on ne peut pas créer une chose de rien, n'est-ce pas? Mais ça n'existe pas en tant qu'âme humaine, n'est-ce pas? Peut-être la meilleure analogie que moi je trouve est un peu la suivante. Imaginons que vous avez une étoffe, un tissu. Vous avez un rouleau de tissu. Alors, on veut faire une robe. Donc, on découpe un patron, n'est-ce pas? On découpe dans le tissu. Et une fois qu'on a découpé, on a cousu et tout ça, on a une robe. Tout le monde va dire, oui, c'est une robe, on voit que c'est une robe. Mais on dit que la robe est créée. Mais ce n'est pas créé dans le sens que la substance dont elle est faite est passée du néant à l'existence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, elle est créée à partir d'une étoffe qui préexistait, n'est-ce pas? Alors c'est un peu comme ça que Abdu'l-Bahá décrit que la substance des âmes existe depuis toujours, mais l'individualisation de l'âme, c'est ce que nous appelons la création de l'âme, c'est le commencement. Il dit, par exemple, cette âme, cet état d'âme avant n'a pas de conscience, enfin, ce n'est pas une âme humaine, ok? Alors donc, l'âme continue à vivre dans l'autre vie. Dans une de ses tablettes, Baha'u'llah explique la chose suivante. Il dit, il y a trois choses dont la connaissance nous est cachée par Dieu dans ce monde. Et ces trois choses sont la raison de la souffrance des innocents, la nature exacte de la vie de l'au-delà et la frontière entre la destinée et la volonté humaine, c'est-à-dire entre la volonté de Dieu préexistant et la volonté humaine. Et la raison que ces choses-là nous sont cachées sont assez évidentes si on réfléchit deux fois. Par exemple, pourquoi est-ce que Dieu nous cache où est la frontière entre notre volonté et la volonté de Dieu? Parce que si on savait ça, on ne ferait jamais plus d'efforts. C'est-à-dire, devant un défi, on dirait, soit je sais, je suis capable de faire ça si je fais assez d'efforts, parce que c'est contingent sous ma volonté, et je sais que c'est contingent sous ma volonté. Mais si je ne sais pas, si je sais pertinemment que je ne peux pas le faire, que c'est la volonté de Dieu que ça ne se fasse pas, ben je ne vais pas faire le moindre effort. mais sans la volonté de Dieu, que nous fassions des efforts parfois, on se développe en faisant des efforts, même si ça n'aboutit pas, même si ce n'est pas la volonté de Dieu que ça aboutisse, c'est quand même la volonté de Dieu qu'on fasse des efforts, mais on ne ferait pas des efforts si tout était clair devant nous, on sait exactement, ça je peux faire, ça je peux pas faire, mais voilà, la vie devient une formule à ce moment-là, il n'y a plus d'efforts, il n'y a plus tout, et la raison d'être de cette vie, c'est le développement spirituel, suite à l'effort. La même raison, Barla dit, pourquoi la nature de l'autre monde nous est cachée, parce qu'il dit, si on savait qu'est-ce que c'est ce monde-là, on serait plus capable de supporter la vie dans ce monde. Et l'analogie qu'il donne est assez explicative. Il dit, si le petit bébé dans le ventre de sa mère savait le monde, connaissait vraiment et avait connaissance du monde où il s'en va, n'est-ce pas, qui est beaucoup plus grande, enfin qui a beaucoup plus de jouissance et tout ça, il aura beaucoup de peine, tout en sachant ça, à rester content, à d'être confiné dans un espace étroit et tout ça, noir, etc., sans musique, sans même musique rock. Alors, donc, le fait de connaître la nature de l'autre vie, encore une fois, entraînerait la perte de la raison d'être de cette vie. Donc c'est pour notre bien que nous sommes protégés de cette connaissance. C'est pour notre bien. Et il y a l'histoire aussi où Baha'u'llah est une personne qui avait supplié Baha'u'llah de lui révéler la nature de l'autre vie. Alors finalement, devant d'autres personnes, Baha'u'llah dit « Ok, il a cédé à ça ». Et il a expliqué au type, enfin on ne sait pas quoi, et le type s'est suicidé sur le champ. Alors sans doute Baha'u'llah a accédé à sa demande pour donner une leçon, entre autres, n'est-ce pas, en fait, pour montrer aux autres que ce n'était pas une blague, que vraiment, ça c'est littéralement impossible à une personne de supporter cette vie si elle avait la connaissance de tout ce qu'il avait dans l'autre monde. Alors, la troisième chose, la souffrance des innocents, c'est un peu plus difficile à comprendre exactement la raison de cela. Et là, je rentre dans le vif de mes réflexions. Le monde de l'existence est structuré par des liens de cause à effet. Baha'u'llah le dit, la science nous le révèle. Donc, à chaque chose, il a une conséquence. Comme il dit, chaque cause a un effet, chaque effet a une cause. Tout ce qui existe est le produit de quelque chose et il produit quelque chose par la suite. Okay? Ces liens de causalité sont très forts. Mais la science nous dévoile ces liens de causalité dans le monde matériel. Alors, la question se pose maintenant, quel est le lien entre ce monde et l'autre monde. C'est-à-dire, d'après, on a déblayé l'histoire de l'existence. L'autre monde existe. L'immortalité existe. Mais ça existe là, comme ça, en fait. Quel est le lien entre ce monde matériel, physique, visible, et le monde invisible qui, pour le moment, est invisible? Ça, c'est une question beaucoup plus difficile. Et on pourrait même, certains philosophes ont même dit, oui, il a une vie de l'au-delà, mais il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'était le point de vue de Descartes, par exemple. Descartes disait, si on veut expliquer une chose matérielle, on regarde les causes matérielles. Le monde spirituel existe, mais le monde spirituel n'a aucun lien causal avec le monde matériel. Et Leibniz, son successeur, a explicité ce principe en disant que tout effet matériel avait une cause matérielle. Ce qui revient à dire que le monde matériel contient sa propre explication, n'est-ce pas? On n'a pas à invoquer un autre monde pour expliquer des phénomènes matériels. Alors, ça c'est le point donc important, à savoir que selon Baha'u'llah, le lien entre le monde matériel et le monde spirituel est un lien de cause et à effet. Et ce lien causal va dans les deux sens. Et les deux sens sont essentiellement les suivants. C'est le monde spirituel ou invisible qui produit le monde visible, n'est-ce pas? Ce que la physique moderne nous montre. Que tout le monde visible, c'est des petits paquets d'énergie qui sont sortis de l'invisible et qui font un certain trajet parabolique et qui retombent, enfin comme un physicien a dit, imaginons un poisson qui sort de l'eau, qui atteint l'apogée de sa chute et qui retombe à l'eau, tout le monde visible est comme ça. C'est comme des poissons qui sautent dans l'eau, l'eau étant, et ses profondeurs étant le monde invisible. Donc c'est le monde invisible qui produit le monde visible. Donc ça c'est le lien de cause à effet dans un sens, c'est-à-dire la causalité du monde spirituel vers le monde matériel. C'est en fait le monde spirituel qui produit le monde matériel. Le lien de causalité dans l'autre sens est le suivant. Il a certaines conséquences de nos actes et de nos expériences dans le monde matériel qui sont seulement visibles dans l'autre monde. C'est-à-dire qui seront seulement expérimentés dans l'autre monde.
Quand nous serons quittés du monde matériel.
C'est ça. Autrement dit, devant un phénomène, je peux poser deux questions. Pourquoi ce phénomène? D'où vient ce phénomène? Quelle est sa cause? Okay? Je pourrais aussi dire quelles sont les conséquences de ce phénomène. Si je brûle ma maison, qu'est-ce qui va arriver? Enfin, n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, comme je viens de dire, les racines ultimes des causes du monde matériel se trouvent dans le monde spirituel. Alors, Baha'u'llah explique aussi que les conséquences ultimes de bien des choses dans le monde matériel se trouvent dans l'autre monde. Alors, je vais vous donner un exemple de cela qui est assez effrayant, mais qui est dans le Kitab-i Aqdas. Vous savez que toutes les religions, tous les prophètes ont défendu l'adultère. Enfin, Moïse l'a fait, Jésus l'a fait, Mohammed l'a fait, le Bab l'a fait, etc. Donc, la moralité sexuelle est restée à peu près inchangé pendant toute l'histoire de la religion. Il y a d'autres choses qui ont changé, mais la moralité spirituelle qui est qui gouverne la sexualité, qui a été donnée par Moïse, est restée plus ou moins intacte à travers toute la succession de révélations. Alors la question, évidemment, c'est, ok, si l'adultère est un péché, si c'est une faute, quelle est la punition? Mais Moïse ne blaguait pas pour lui et puis pour les musulmans aussi. C'était la lapidation, c'était la mort, n'est-ce pas? C'était la mort. Et donc c'était considéré comme un crime, si vous voulez, comme une transgression extrêmement grave. Parce que ça mérite la mort. C'est pas toutes les transgressions qui méritent la mort. Le vol, par exemple, prenez l'islam. La mort, c'est aussi la pénalité pour l'adultère dans l'islam. C'est aussi la mort. Pour le vol, c'est qu'on coupe les mains du voleur, n'est-ce pas? Bon, couper les mains du voleur, c'est quand même assez radical comme punition, mais c'est quand même pas aussi radical que de tuer la personne. Donc, l'adultère est considéré comme une beaucoup plus grave transgression dans l'islam, par exemple, que le fait de voler, n'est-ce pas? Dans la foi bahaï, la punition pour l'adultère, c'est simplement que les deux partenaires doivent payer une amende à la maison de justice. Et cette amende est doublée pour chaque offense. Donc c'est une progression exponentielle. Maintenant, où je veux en venir avec tout ça? Simplement la chose suivante. Il y a une phrase dans le Kitab Miraktas où Baha'u'llah dit la chose suivante. Il dit, la vraie pénalité pour l'adultère, c'est dans l'autre monde. Il dit, les gens qui seront coupables de cela seront sujets à un tourment dans l'autre monde. C'est faux, j'avoue. What is it called in English? A tormenting. C'est le mot tourment. Tormenting, trial, tormenting. Alors, pourquoi ça? Pourquoi ça? Eh bien, pensez un peu à la chose, à la chose suivante. Donc, c'est évidemment là où je vais en venir avec les conséquences dans l'autre monde, n'est-ce pas? La base de la foi bahaï, c'est l'unité. C'est l'unité de tous les genres humains. La moitié de l'humanité, c'est des femmes. Et l'autre moitié, c'est les hommes. Si on ne peut pas avoir des vraies amitiés entre les hommes et la femme, comment est-ce qu'on va faire l'unité de l'humanité, n'est-ce pas? Étant donné que Baha'u'llah, comme tous les autres prophètes, enfin, à limiter le nombre de femmes, enfin, c'est monogamie dans la foi bahaï, et même si on prend la polygamie, c'est quand même quatre. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des relations sexuelles entre tous les amis hommes-femmes, n'est-ce pas? C'est pas possible. Hein? Donc, les relations sexuelles sont limitées à l'expression du mariage, dans le mariage. Donc, si on va avoir des vraies amitiés entre les hommes et la femme, une précondition, c'est évidemment la chasteté, c'est la discipline sexuelle. C'est-à-dire que aussitôt que les gens commencent à se victimiser sexuellement, n'est-ce pas, l'ego intervient et puis une véritable amitié n'est pas possible, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, enfin, on sait ça, nous tous on sait ça, n'est-ce pas? Et quand Baha'u'llah parle de l'unité, il parle de l'unité, n'est-ce pas? L'unité, c'est une chose très forte. Il parle même d'une âme dans plusieurs corps. Et un autre passage, il parle d'une âme et un seul corps. Mais il y a plusieurs fois cette image que toutes les âmes deviennent une seule âme. Ce qui préconise une unité très grande, n'est-ce pas? En fait, un très grand niveau d'unité. Or, donc, cette force d'attraction entre l'homme et la femme et tout ça, ça va devenir très très forte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça va relâcher une foule d'émotions, ces amitiés entre hommes et femmes. Et donc, dans le passé, qu'est-ce que les prophètes ont fait? Enfin, par exemple, si on prend l'islam, ils ont essentiellement créé une communauté de femmes et une communauté d'hommes. C'est-à-dire, la question sexuelle a elle seule déterminé les relations entre les êtres humains. Ok? C'est ça. En fait, ils ont, c'est toute l'histoire qu'on voit en Afghanistan et tout ça, avec les femmes complètement couvertes. C'est-à-dire, ils ont créé une communauté de femmes et une communauté d'hommes. Essentiellement, le masculin et le féminin vivaient à côté. Évidemment, il avait le mariage, mais nous savons très bien que même dans le mariage, il n'avait pas une vraie consultation ou lien entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, par exemple, l'homme ne va pas consulter sa femme pour des questions d'affaires, il va consulter ses amis et tout ça. Donc, même s'il y avait dans le mariage, c'était quand même là, ça participait à cette division entre hommes et femmes, le monde des femmes. Les femmes, c'est pour, comme les Allemands disent, pour la cuisine, l'église et les enfants, n'est-ce pas? Kinder, Cook, Kirke. Oui. Et puis, etc. Donc, même s'ils vivaient côte à côte dans le mariage, ils vivaient quand même dans deux mondes différents. N'est-ce pas? Alors tout ça, prend fin. Mais ça, c'est très important. Okay? Ça, c'est vraiment important. Alors, tout ça prend fin avec la révélation de Baha'u'llah. Il parle de l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Il dit que les femmes vont entrer dans toutes les activités qui étaient jusque-là réservées aux hommes. Elles vont aller dans la politique, dans toutes les professions, etc. Ils vont travailler côte à côte avec les hommes et tout ça. Enfin, c'est qu'on se voit aujourd'hui, ok. Donc, ça donne une beaucoup plus grande liberté que dans le passé. Mais pour que cette liberté soit productive à la spiritualité humaine, ça exige une précondition, et ça c'est la discipline sexuelle. Parce que si on n'a pas ça, si, on n'aura jamais les vraies amitiés entre l'homme et la femme, parce que les gens vont simplement s'exploiter sexuellement les uns les autres, comme ça se fait maintenant dans notre société, écoutez. Par exemple, un ami, enfin Bahá'í, m'a rapporté ce dialogue qu'il avait avec les gens, enfin, et nous les hommes Bahá'í, on reçoit ça de temps en temps. Les gens disent, mais qu'est-ce que vous pensez de la question sexuelle? Alors, bon, on explique un peu le point de vue Bahá'í, ils disent, mais voilà, alors, vous n'avez pas de relation sexuelle, seulement avec votre femme, etc. Mais pensez à toute l'expérience que vous manquez, enfin, vous manquez de tellement d'expérience. Alors, parfois, je leur réponds de la façon suivante, je dis, écoutez, je manque votre expérience. Je dis, moi, je peux être des amis intimes de centaines et des centaines de femmes. Je peux les côtoyer, je peux avoir des échanges intellectuels, émotionnels, on peut se consoler, je peux rester dans leur maison. Sans que leur mari devienne jaloux, je travaille avec eux, n'est-ce pas, en collaboration, et tout. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Alors, il dit, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, ben, je ne pourrais pas rester dans la maison d'une femme sans tomber dans la lit avec elle, n'est-ce pas? Il dit, ben voilà, donc, vous avez votre expérience, et moi, j'ai la mienne. Donc, on pense que la discipline sexuelle est une restriction, mais c'est une libération. C'est une libération qui va permettre à l'humanité de trouver une véritable unité. Maintenant, j'en viens donc à la conclusion. Pourquoi cette histoire d'un tourment dans l'autre monde? Parce qu'écoutez, de tous les crimes ou transgressions possibles, l'adultère se fait pas dans la rue, n'est-ce pas, en fait. C'est-à-dire, surtout si les liens sont multipliés, si on a la facilité d'interaction, comme on a aujourd'hui avec le transport et tout, c'est tout à fait possible pour des gens de faire l'adultère sans être, s'ils sont raisonnablement intelligents, sans être détectés, n'est-ce pas. Donc, si les gens sont, si cette transgression est détectée, il y a cette pénalité de payer une amende et tout. Enfin, ce qui devient un fait public, n'est-ce pas? C'est une certaine humiliation. Mais ce n'est pas assez pour empêcher que les gens vont faire ça, parce que la tentation sexuelle est extrêmement grande, nous le savons tous. Donc, Baha'u'llah, maintenant, agit de cette autre conséquence, on ne sait pas. Mais il dit, si vous faites ça, il y aura une conséquence, il dit, la vraie pénalité pour l'adultère, c'est dans l'autre monde. Il est impossible que ça soit puni de façon appropriée dans ce monde. Alors, comme un ami, Pierre-Yves Moquet m'a dit, il dit, si jamais j'aurais pu être tenté de tromper ma femme avant de lire le Kitab al-Aqdas, il dit, une fois que j'ai lu ça, il dit, jamais de la vie, n'est-ce pas, en fait. Donc, ça effraie, c'est effrayant, n'est-ce pas. Mais pourquoi? Parce que ça donne donc une discipline interne à la personne, c'est-à-dire la personne qui se trouve dans une circonstance où il pourrait faire l'adultère avec la quasi-certitude qu'il ne serait pas découverte, Le frustré, qu'est-ce qui va le garder, l'empêcher de faire ça? Ben, ce qui, ultimement, va l'empêcher de faire ça, c'est de penser à quelles seront les conséquences, pas dans ce monde, d'être possiblement découvert et payé une amende et tout ça, mais les conséquences dans l'autre monde, dont Bahá'u'lláh lui a parlé. Donc c'est cette pensée-là, cette crainte de Dieu, qui va le garder de faire cela. Alors, donc, j'ai pris cet exemple qui est un peu dramatique, j'en conviens, mais ça illustre le principe suivant. On ne peut pas vivre convenablement dans ce monde maintenant sans tenir compte des diverses conséquences de nos actions dans l'autre monde. Et Bahá'u'lláh nous assure qu'il y aura des conséquences positives ou négatives de chaque action que nous faisons dans l'autre monde. Bien sûr, il a la merci de Dieu, il a la miséricorde de Dieu, et il dit que Dieu peut pardonner ce qu'il veut pardonner, n'est-ce pas? Mais ce sont quand même des liens de cause à effet qui sont là. Ce sont des liens causaux. Et comme dans la science, nous manipulons le lien causal en apprenant comment produire des effets que nous voulons et comment éviter des effets que nous ne voulons pas, eh bien nous pouvons faire la même chose avec la vie spirituelle. Mais pour cela, il faut être conscient qu'il a des conséquences dans notre monde, que les conséquences de nos actions ne sont pas simplement ce qui est visible. Ok? Que les conséquences de nos actions matérielles ne sont pas du tout restreintes à ce qui est visible, non seulement par les autres, mais même par nous. Ok? Et ce n'est pas seulement, nécessairement restreint simplement à la durée de cette vie. Par exemple, par rapport à l'adultère, puisque j'ai pris l'exemple, Shoghi Effendi dit, il faut savoir que le fait de commettre l'adultère aurait une grave conséquence sur le développement de l'âme dans l'autre monde. Que ça serait la cause du retard du progrès de l'âme. Il ne dit pas que ça bloquerait complètement, que l'âme ne peut jamais surpasser, mais il dit ça entraînait un certain retard dans le développement spirituel de l'âme dans notre monde. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de culpabiliser, enfin, etc., etc. Comme je dis, Dieu peut pardonner tout ce qu'il veut pardonner, mais le principe, c'est que vivre cette vie, pour rejoindre le titre, à la perspective de l'immortalité, c'est essentiellement d'être conscient à tout moment que les conséquences de nos actions ne sont pas limitées à ce qui nous est visible.